Sur France Inter, bonjour à tous. Nous sommes le jeudi 2 décembre. Bonjour Anaïs Feuga.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous.
À la une de l'actualité ce matin, une cinquième vague de Covid qui monte en France. Près de 50 000 cas hier. Et l'inquiétude autour du variant Omicron. Les laboratoires pensent déjà à adapter leurs vaccins. Nous voyons comment, dès le début du journal, Anaïs, après les autres titres.
Des enfants qui dorment dans des gymnases dans cette école de Lyon. Pas d'hébergement d'urgence. Les parents se mobilisent. Que veut obtenir Vladimir Poutine en menaçant l'Ukraine, garder les Occidentaux à distance. Américains et Russes se voient en tête à tête en Suède aujourd'hui. Et puis quand les Belges inventaient un pastiche de leur quotidien le soir, épisode de la résistance aux Allemands pendant la guerre raconté dans une BD.
Et nos invités ce matin, Léa, à 7h50 avec vous.
J-1000 avant les Jeux Paralympiques de Paris. Gros plan ce matin sur un athlète incroyable. Quintuple médaillé du saut en longueur et du triple saut, il dit avoir surmonté son handicap parce qu'il voulait apprendre à voler comme ses idoles. J'aime bien ça. Arnaud Assoumi sera avec nous à 7h50.
Et on se retrouvera, Léa, à 8h20 pour le grand entretien de la matinale avec aujourd'hui le député La France Insoumise de Seine-Saint-Denis, Alexis Corbière. Le standard est ouvert, vous attend. 01 45 24 7000.
France Inter. Près d'un demi-million de piqûres de rappel ces dernières 24 heures en France. La vaccination pour se protéger du virus pendant qu'Omicron étend sa toile. Détectée ces dernières heures aux États-Unis, en Californie, chez un voyageur vacciné de retour d'Afrique du Sud. Le nouveau variant, identifié aussi en Arabie Saoudite, et s'il inquiète, c'est à cause de son grand nombre de mutations. Omicron serait-il capable d'échapper au vaccin? Il est encore trop tôt pour le dire, mais les laboratoires, eux, se préparent à adapter leur vaccin. Véronique Julia, comment s'y prend-on ?
Pour être efficaces, les nouveaux vaccins devront cibler les parties de la protéine Spike sur lesquelles les mutations sont apparues. Dans le cas d'un vaccin à ARN messager, il suffit donc de modifier la séquence d'ARN qu'on injecte au patient pour qu'elle code non plus la protéine Spike originale, mais la protéine Spike mutée. Ça, ce n'est pas très long à faire. Ça prend une quinzaine de jours, tout au plus. Si les industriels, Pfizer ou Moderna, parlent de 60 à 100 jours pour s'adapter, c'est parce que la deuxième étape est plus longue. Il faut fabriquer le vaccin en grande quantité, le tester, vérifier qu'il n'y a pas de toxicité chez l'homme, et tout ça prend du temps, même si on ne refait pas tous les essais cliniques de A à Z. Frédéric Altard est immunologiste.
Même s'il y a très peu de risques que ça soit toxique, ce petit bout qu'on va mettre, il faut quand même vérifier son innocuité avant de l'utiliser. Même si c'est que 10% nouveau dans quelque chose qui est 90% déjà utilisé, il faut le vérifier.
On le sait, le vaccin ARN est le plus simple à adapter. Les autres technologies qui nécessitent de fabriquer des particules virales sont forcément plus longues. Autre piste, si des mutants coriaces venaient à se multiplier, les vaccins dits pluri- ou multivalents. Ces vaccins pourraient cibler plusieurs protéines spike à la fois, mutées de différentes façons. Ils pourraient cibler aussi d'autres protéines du virus. Comme ça, si l'une d'entre elles s'est modifiée, l'organisme en reconnaîtra d'autres qui, elles, n'auront peut-être pas muté. Plusieurs laboratoires dans le monde sont déjà en train d'y travailler.
Et l'émergence de ce variant rappelle l'urgence d'une vaccination à échelle mondiale, seule solution pour une couverture immunitaire globale. Or, on en est loin, même si le mécanisme COVAX, qui permet l'achat de vaccins pour les pays pauvres, a battu un record de livraison en début de semaine, 11 millions de doses en 24 heures. L'inégalité vaccinale entre le Nord et le Sud est criante. Louise Baudet.
Bien sûr, on est encore très loin d'un accès équitable aux vaccins. Seuls 7% des Africains sont vaccinés quand les trois quarts des doses administrées le sont dans 10 pays seulement. Mais après une longue période où l'approvisionnement a carrément fait défaut, les livraisons décollent et COVAX a passé le cap des 500 millions de doses livré mi-novembre. Approvisionnement encore insuffisant, qui se double d'un défi logistique, préviennent les piliers de COVAX, Alliance du vaccin, OMS et UNICEF. Trop souvent, les doses sont proches de la date de péremption, livrées sans seringue ni diluant, en trop petite quantité et surtout sans prévenir. Or, les pays bénéficiaires ont des faiblesses structurelles qui entravent la mobilisation rapide de moyens matériels et humains. Pas de frigo pour conserver les vaccins, pas de seringue ni aiguille pour les administrer. Les pays donateurs doivent mieux collaborer, prévient COVAX, qui demande notamment que les doses puissent être stockées pendant au moins 10 semaines, qu'elles soient livrées en grosse quantité et que leur arrivée soit annoncée au moins 4 semaines à l'avance.
Et l'OMS met en garde contre la combinaison toxique de faibles taux de vaccination et de dépistage, dépistage en France, qui frôle les 50 000 cas sur la journée d'hier.
Il est 7h05 à Lyon, Anaïs, il n'y a plus de place dans les accueils d'urgence.
Et ce sont donc 7 écoles de la ville qui accueillent depuis une dizaine de jours des réfugiés d'Europe de l'Est et d'Afrique, les parents se relaient dans les salles de classe ou les gymnases transformés en dortoirs. Le reportage de Christophe Vincent.
On va mettre les tapis.
Ça va. 20h, un groupe d'Albanais demandeurs d'asile arrive à l'école Jean-Pierre Veillet. Les 4 adultes et 4 enfants ont pris un repas chaud à l'Armée du Salut. Les deux familles investissent le gymnase. Géraldine Andréot, parent d'élèves et enseignante.
Certains font la soirée, d'autres la nuit, d'autres le matin, le petit déjeuner, le rangement des affaires. Des enfants sans solution pendant l'hiver, ça faisait très longtemps que ça n'était pas arrivé ici. On ne peut pas continuer comme ça éternellement. Ces enfants n'ont absolument pas choisi la situation dans laquelle ils sont. Et on n'a pas le droit de les laisser comme ça.
Les 40 parents mobilisés ont d'abord payé 70 nuits d'hôtel, mais leur cagnotte a fondu, d'où ce repli dans l'école. Caroline Villatoro.
Forcément, ils sont inquiets de ne pas savoir comment leur situation va évoluer. En même temps, ils sont très reconnaissants de ce qu'on fait pour eux. Ils ont envie d'apprendre le français. C'est très réconfortant de voir toute la solidarité qui s'est mise en place, à la fois à l'école, mais aussi dans le quartier. On a une boulangerie qui nous donne ses invendus. On a d'autres parents qui nous apportent des vêtements. Ça a soulevé quelque chose de très beau.
Les associations de soutien ont rendez-vous ce soir en préfecture. Lyon, Christophe Vincent, France Inter.
Les migrants thèmes du déplacement aussi du pape en visite aujourd'hui à Chypre. Reportage dans le journal de 7h30. C'est un hacker d'un genre bien particulier qui est jugé à partir d'aujourd'hui à Paris. Grégory Shelly, un franco-israélien de 39 ans, caché sous le pseudonyme de Hulkan, poursuivi pour des piratages de téléphones de personnalités ou de journalistes. Et quand on incite à la haine, on risque l'inéligibilité. C'est ce que les communistes aimeraient bien voir rappelé. Ils profiteront de cette journée de niche parlementaire à l'Assemblée nationale pour faire passer ce message porté par leur candidat à la présidentielle et député Fabien Roussel.
La résolution que je propose ne vise pas à durcir la loi. Elle rappelle juste que la loi existe et que cette peine d'inéligibilité est une peine complémentaire, additionnelle, que le juge a à sa disposition en fonction de la gravité des propos. Et c'est le juge qui décide, oui ou non, d'appliquer cette peine d'inéligibilité en tenant compte qu'il y a des traits, des lignes jaunes à ne pas dépasser.
En l'occurrence, le candidat qui est condamné 2 fois pour provocation à la haine raciale, c'est Éric Zemmour.
Il s'agit pour tout le monde, pas seulement les candidats à l'élection présidentielle, pour tous les responsables politiques, de ne pas avoir de tels propos, car ils risquent d'être inéligibles. Il faut pouvoir garantir un débat politique serein.
Fabien Roussel, député communiste, il répondait à Yaël Gauz. Et puis un président français honoré aujourd'hui, l'Europe célèbre la mémoire de l'un de ses bâtisseurs, Valéry Giscard d'Estaing, 1 an jour pour jour après sa mort. Cérémonie à 11h au Parlement européen de Strasbourg.
7h08, climat polaire à Stockholm.
Froid glacial entre la Russie et les États-Unis, tête à tête des ministres des Affaires étrangères prévus aujourd'hui en marge du sommet de l'OSCE en pleine tension sur l'Ukraine. Le chef de la diplomatie américaine a prévenu hier Moscou de sanctions en cas d'invasion. Alors nul ne sait quelles sont les intentions réelles de Vladimir Poutine, mais Sylvain Tronchet, on sait ce qu'il veut obtenir.
Vladimir Poutine a profité d'une cérémonie avec des ambassadeurs étrangers hier pour expliquer que ce qu'il veut, c'est un engagement que l'Ukraine n'intégrerait jamais l'OTAN. Et au-delà, que l'Alliance Atlantique ne s'élargirait plus à l'Est ni ne déploierait des armements sophistiqués à proximité des frontières russes. Le leader du Kremlin a précisé qu'il ne se contenterait pas d'une parole donnée, qu'il voulait des garanties juridiques parce que, a-t-il dit, nos collègues occidentaux n'ont pas respecté leurs engagements. En disant cela, le chef du Kremlin fait référence à une histoire fondatrice de la diplomatie russe actuelle. En 1990, juste après la chute du mur, les Américains auraient promis à Mikhail Gorbatchev qu'il n'y aurait pas d'élargissement à l'est de l'OTAN. Cette version est contestée par certains historiens et la diplomatie américaine, mais elle est omniprésente dans l'esprit des diplomates russes. L'Ukraine est ce que l'on appelle en Russie l'étranger proche et Moscou ne veut pas y voir d'influence occidentale. Moscou, Sylvain Tronchet, France Inter.
Et on évoquera aussi la crise ukrainienne après le journal de 8h avec Pierre Aski. Et quand la diplomatie le dispute au sport, c'est ce matin le quoi qu'il en coûte du circuit professionnel de tennis féminin. Son patron met sa menace à exécution et annonce la suspension de tous les tournois en Chine à la suite du scandale dénoncé par la joueuse chinoise Peng Shuai.
Total, 7h10, n'aura pas le soutien financier de l'État français pour son projet en Arctique.
Oui, ce méga projet, cette gigantesque usine de gaz naturel liquéfié en construction dans l'Arctique est très contestée par les associations de défense de l'environnement. Le tour de table financier vient d'être bouclé. 10 milliards d'euros de financement, mais pas un centime français. L'État estime désormais ce type de projet contraire à ses engagements climatiques, Sandy Dauphin.
La gigantesque usine de gaz naturel liquéfié en construction dans l'Arctique ne bénéficiera pas de garantie à l'export de la Banque publique d'investissement BPI France. Emmanuel Macron l'avait laissé entendre en septembre. C'est confirmé. Une victoire pour l'ONG Les Amis de la Terre, l'une de ses porte-paroles, Anna-Lena Rebo.
C'est scandaleux d'aller exploiter dans la région qui est le plus impactée par le réchauffement climatique les énergies qui sont à l'origine de ce réchauffement, c'est-à-dire les énergies fossiles, y compris le gaz. Pour nous, c'est une très bonne nouvelle. C'est la première fois comme ça qu'on savait que la France était impliquée sur un projet et qu'elle se retire. C'est un signal politique fort.
Une décision conforme à l'engagement pris à la COP26, la France s'engage aux côtés d'une trentaine de pays et d'institutions à ne plus soutenir financièrement des projets de charbon, pétrole et gaz à l'étranger à partir de 2022 s'ils ne sont pas accompagnés d'une technologie de captage de CO2. L'absence de soutien de la France ne remet pas en cause le projet de Total Énergie dans l'Arctique. Arctic LNG 2 a obtenu près de 10 milliards d'euros de financement, notamment des banques russes et internationales, mais aussi de banques publiques chinoises.
Le réchauffement climatique sur le dos duquel on a mis un peu trop vite la famine terrible qui frappe le sud de Madagascar, c'est ce qui ressort de l'étude du WWA. La sécheresse en cause est liée au hasard des variations climatiques naturelles, ce qui ne remet pas en cause le réchauffement réel, disent les scientifiques, et ses dégâts à venir. Allez, le calendrier de l'Avent du service culture qui vous propose jusqu'à Noël un album, un coffret, DVD, aujourd'hui une BD. Le faux soir nous mène en Belgique où pendant l'occupation, le grand journal Le Soir était aux mains des Allemands. Et c'est là qu'est née l'idée folle d'en faire une version satirique. Alexandra Akoun nous raconte.
Pour les fans de BD et d'histoire avec un grand H, cet épisode mal connu en France, d'hommes qui n'ont tué personne, n'ont détruit aucun bâtiment, mais dont le fait de résistance remontera jusqu'à Hitler et Churchill. Nous sommes en octobre 1943, pour marquer le 11 novembre et la défaite allemande de 1918. Le Front de l'Indépendance cherche une idée qui ferait enrager l'occupant. C'est là qu'un dénommé Marc Aubryon va avoir une illumination.
Au départ, il a l'idée de faire un faux journal du pays réel qui était le journal du parti francophone fasciste belge, les Rexis. Comme on les appelait.
Daniel Couvreur, journaliste au Soir, l'un des trois auteurs de cette BD.
Et puis il se dit, oui, mais ça, il n'y a que finalement les gens qui lisent le pays réel, il n'y en a pas beaucoup. Il faut trouver quelque chose qui va toucher le grand public et l'ensemble de la population. Et là, il réfléchit, il ne trouve pas tout de suite. Et un jour, il se lève le matin, il se dit, ah, un faux soir.
Ce récit, c'est celui des trois semaines qui vont précéder la sortie du faux soir, des montagnes qu'il va falloir déplacer en si peu de temps. Mais c'est aussi celui de l'enquête menée par les trois auteurs pour reconstituer presque heure par heure les préparatifs du canular, des planche en noir et blanc pour le passé, la couleur dès qu'on revient au présent, une blague qui humiliera l'envahisseur et coûtera cher à ces héros de l'ombre.
Une cinquantaine de personnes, la moitié ont été arrêtées et cinq sont morts en déportation, et d'autres sont revenus handicapés.
Un engagement qui aujourd'hui encore illustre l'importance de défendre la liberté de la presse.
Passionnante histoire que ce faux soir de Denis Lapierre, Daniel Couvreur et Christian Durieux, c'est aux éditions Futuropolis.
Merci Anaïs Feugat. Dans 3 minutes, c'est le Zoom à 1000 jours des Jeux Paralympiques de Paris.